Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Anne Jouffroy.
Bonjour mesdames et messieurs. Avec Yves-Marie Berset de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, nous poursuivons notre série historique sur les grands personnages méconnus du XVIIe. En cette semaine de Toussaint, nous évoquerons Vincent de Paul, un aventurier, un combattant au service de Dieu, général des missions lazaristes, fondateur de très nombreux mouvements de charité, ces mouvements qui ont traversé les siècles puisque les équipes de Saint-Vincent de Paul de nos jours continuent son œuvre. Vincent de Paul est né en 1581 à Pouilly, un village proche de Dax dans les Landes, et il est mort à Paris en 1660. Bonjour Yves-Marie Berset.
Bonjour.
Au XVIIe siècle, le temps des saints est revenu. On surnomma le XVIIe le siècle des saints. Mais Yves-Marie Berset, pourquoi avez-vous choisi pour nous présenter Monsieur Vincent, ce Monsieur Vincent parmi tous les autres grands personnages chrétiens qui ont habité aussi cette période où la contre-réforme s'est appliquée à suivre les directives du Concile de Trente? Qui était Vincent de Paul?
Alors, il est vrai qu'il appartient à une génération qui est riche en vocations variées, engagées dans le renouveau catholique qui suit la conclusion du Concile de Trente, et qu'on pourrait choisir d'autres personnages, mais aucun n'aurait la même influence sur son époque, sur son siècle. C'est un personnage qui est aujourd'hui relativement bien connu des historiens dans la mesure où il a laissé énormément, on reviendra peut-être sur ce point, énormément d'écrits, de correspondances, de conférences, d'instructions. Et ces textes, une grande partie a disparu dans la période révolutionnaire, mais d'autres, peut-être un tiers ou un quart de ces écrits, ont survécu. Ils ont été édités par un savant du XXe siècle, Pierre Coste, qui a, entre 1920 et 1925, je crois, publié environ 13 ou 14 volumes de ces textes. Donc, c'est un personnage sur lequel on est extrêmement bien renseigné, mais où la géographie, je veux dire les textes pieux, composés immédiatement après sa mort, le meilleur modèle, c'est celui rédigé par Louis Arbélie, qui était évêque de Rodez en 1664, c'est-à-dire 4 ans après la mort de Vincent de Paul. Ces textes, inévitablement, donnent une version un peu complaisante ou controuvée, caricaturée, dans une nuance de piété trop anecdotique. Et je crois qu'il faut envisager le personnage en son temps, c'est-à-dire, c'est une expression habituelle, en son temps, ça veut dire tel qu'il était confronté aux difficultés, aux incertitudes de son époque, aux obstacles auxquels se heurtait un personnage qui, lui, ne connaissait pas l'avenir, ne connaissait pas ce qui allait être sa carrière. Alors ça, ce personnage, en son temps, si on l'examine ainsi, on s'aperçoit que il y a peut-être un aspect d'imagerie qu'il faut dissiper. On a eu tendance, inévitablement, à opposer une naissance très obscure avec une carrière ensuite
une
merveilleuse.
Une destinée auréolée.
Alors, c'est vrai qu'il a eu une destinée dynamique au cours de sa carrière extraordinaire, qu'il a marqué son époque. Mais on peut peut-être, alors pour commencer, examiner d'où il vient. Est-ce qu'il a cette origine si humble que la géographie a voulu dessiner?
En fait, je crois qu'il vient quand même d'un monde de la campagne et il a eu une destinée hors norme pour un fils de laboureur.
Voilà, mais il faut savoir qu'un laboureur, c'est un propriétaire terrien. C'est quelqu'un qui possède des troupeaux et on sait qu'il avait un oncle qui était prieur d'une chapelle aux environs. On est là donc à Pouilly, devenu aujourd'hui Saint-Vincent-de-Paul, qui est juste à quelques kilomètres de Dax. Dans le paysage, c'est un moment où s'opposent les collines de la Chalosse et puis la Grande Lande, c'est-à-dire la Pignada. Il n'y a pas encore beaucoup de pins, mais c'est des grands espaces de dunes. Et sa famille possède des troupeaux de vaches transhumante entre les Pyrénées et les Landes. Et on s'aperçoit donc que très tôt, il est remarqué pour son intelligence et que ce père laboureur, qui est à la tête d'une famille nombreuse, il est, je crois, le troisième de 6 enfants, l'envoie tout jeune au collège tout proche de Dax. C'est un collège des Récollets qui vient de s'ouvrir depuis simplement 10 ou 20 ans et où il va passer 2 ans ou 3 ans et où il est remarqué là à la fois donc par cet oncle ecclésiastique et par le juge du lieu, du village, qui est avocat à la sénéchaussée de Dax, des Lannes, c'était le nom qu'on donnait au paysage qui s'appelle aujourd'hui les Landes. Et ces personnages l'envoient étudier la théologie à Toulouse.
Oui, donc déjà, il a fait un saut dans la culture.
Très certainement, c'est son intelligence hors norme, très vive, qui le fait remarquer. Alors, il va étudier la théologie, il parvient au grade, modeste encore, de bachelier en théologie, qu'il obtient en 1604, mais en 1600, c'est-à-dire alors qu'il avait seulement 19 ans, qu'il n'avait pas encore l'âge requis pour la prêtrise, qui doit normalement, selon les canons de Trente, s'obtenir avec la majorité. Il est ordonné prêtre en septembre 1600 et il est ordonné prêtre non pas dans le diocèse de Dax ni dans celui de Tarbes ou de Toulouse, mais à Périgueux, au château l'évêque, par les mains de l'évêque de Périgueux, François de Bourdeil, qui est un personnage très âgé mais chargé d'honneur et d'une famille liée au prestige de Henri IV. Donc là, je crois que déjà ce détail biographique nous indique qu'il ne suit pas la carrière d'un simple jeune prêtre gascon. Il échappe là un peu à la norme. Et on va le voir envoyé poursuivre l'aventure ou la recherche de bénéfices ecclésiastiques ou d'une culture théologique à Rome.
Oui, parce que en fait, il avait envie d'une vie peut-être proche de sa famille et déjà dévoué au Seigneur puisqu'il était ordonné. Mais non, il part à Rome.
Il part à Rome. Alors, on sait qu'il en est revenu pour achever ses études de théologie à Toulouse en 1604. Et puis, on a là un épisode obscur puisque entre 1605 et 1607, il y a 2 années où on n'est pas renseigné du tout sur ce qu'il est devenu et la tradition veut qu'il était à ce moment-là, par accident, pris par, sur la côte du Languedoc par des pirates barbaresques et emporté à Tunis pendant 2 ans. Alors l'épisode n'est pas du tout invraisemblable, mais il n'est pas non plus assuré. Parce qu'on sait que Vincent de Paul, à qui on a évoqué devant lui cette anecdote, l'a toujours rejetée comme, alors elle n'est pas imaginaire, mais en tout cas c'est quelque chose dont il n'a jamais voulu parler. Donc il y a une incertitude.
C'est quand même bien lui qui l'a écrit, qui l'a raconté, ce qui s'est passé pendant ces 2 ans.
C'est dans une lettre d'un ami de l'avocat de Dax, qu'il avait protégé, qu'il y a cette allusion-là.
Monsieur de Comet.
Voilà. Donc, et lui l'a nié. Bon, alors, donc il y a une incertitude. Tout ce qu'on sait, c'est qu'en 1608, on le retrouve, il est monté à Paris, comme on dit, comme beaucoup de Gascons, à la suite de Henri IV, à la suite aussi de Marguerite de Navarre, la première épouse rejetée de Henri IV, qui avait passé beaucoup de temps entre 79 et 82 à Nérac, ensuite à Usson, dans la Marche, et qui, du fait de ses séjours dans un grand sud-ouest, avait conservé un goût pour, je dirais, les méridionaux, la culture occitane, et il y avait autour d'elle, lorsqu'elle s'installe à Paris en 1605, toute une troupe d'artistes, de littérateurs, de philosophes, de poètes, originaires généralement des provinces du Sud-Ouest, donc Scipion Duplex, Pierre Charron, François Ménard, Philippe Desportes et Vincent de Paul. Elle avait aussi connu, quand elle était à Usson, Honoré d'Urfey, l'auteur
oui,
de l'Astrée.
Oui, mais comment lui a-t-il pu être connu par Marguerite comme ça?
D'abord, il faut supposer qu'il a des relations provinciales. Il est aussi lié d'amitié dès son arrivée en 1608 avec un jeune ecclésiastique qui a à peu près le même âge que lui, mais qui a un rang social bien plus élevé, c'est Pierre de Bérulle, qui, lui, à peine ordonné prêtre, s'est trouvé avoir une charge à l'aumônerie du roi Henri IV. Donc, il n'y a pas de commune mesure sociale entre Bérulle et Vincent de Paul. Il y a par contre une rencontre spirituelle. Bérulle est séduit par la personnalité, la vivacité intellectuelle de Vincent de Paul, et il va donc le recommander pour devenir chargé des aumônes, aumônier au sens étymologique, c'est-à-dire celui qui distribue les aumônes de la reine Marguerite. Alors Marguerite de Valois est établie depuis 1605 à Paris, où elle s'est fait construire une résidence au bord de la Seine, en dehors du mur, de la muraille, et juste en face du Louvre, aujourd'hui à l'emplacement de l'école actuelle des Beaux-Arts. Vincent de Paul résidait rue de Seine, on le sait par des actes notariés passés à ce moment-là. Alors on le voit là, qui va de 1610 à 1613 se trouver au service de Marguerite de France. Et puis il va, toujours sur la recommandation de Bérulle, prendre en 1612 la charge d'une cure d'une paroisse maraîchère des environs de Paris, à l'ouest de Paris, Clichy-la-Garenne. Et on est en 1612-1613, il va résider assez peu, quelques mois simplement. Il résignera d'ailleurs cette cure en 1626, mais le peu de temps qu'il y a passé en 1612 lui a permis déjà de montrer un investissement dans les confréries, les œuvres de charité confiées à des laïcs, le souci de la catéchèse des enfants, des petits-enfants, les réconciliations des familles, une œuvre sociale, l'entretien de l'Église, tout un tas de tâches pastorales qui vont lui tenir à cœur dans la suite des temps qu'il a déjà esquissé à Clichy. Alors, il a dans ses conférences que tous les mardis, ensuite dans les années 1640-1650, il a adressé à ses disciples, il a eu un moment où il évoquait ce temps heureux passé à Clichy-la-Garenne. Il dit « J'ai été curé des champs. J'avais un si bon peuple et m'obéissant à faire tout ce que je lui disais. Et je me disais à moi-même « Ah, que tu es heureux d'avoir un si bon peuple. Oui, je ne pense pas que le pape lui-même soit si heureux qu'un curé qui a un peuple avec un si bon cœur. » Voilà le
souvenir. Il avait déjà beaucoup de sympathie pour toute la population qui souffrait.
Effectivement, les humbles habitants d'une paroisse suburbaine avec toutes les difficultés, enfin de relative pauvreté de l'époque. Alors, il ne faut pas en même temps noircir le paysage. Et on est entre 1598 et 1635 dans une des rares périodes de paix du XVIe et du XVIIe siècle, et dans un moment où, au contraire, il y a une liberté de courant de commerce, une certaine aisance, un développement, un essor démographique. Donc, ce ne sont pas les années les plus noires du XVIIe siècle.
Oui, ce n'est pas ce qui va venir après. Ça sera
dans les années 1630-1640, on a beaucoup plus d'épidémies, de guerres, de malheurs des temps. Oui. Alors voilà, on a cet épisode-là de Clichy-la-Garenne, où on le voit aussi, un autre trait. Il met sur pied une sorte de petit séminaire, qu'il a une école cléricale où il accueille des jeunes qui se destinent éventuellement aux ordres et qui vont pouvoir apprendre des rudiments de connaissances cléricales, théologiques, une petite méthode, parce que ce n'est vraiment pas encore un séminaire tel qu'on les verra se développer selon les canons du Concile de Trente. Mais c'est un premier pas, puisqu'on est tout à fait au début de la carrière de Vincent de Paul, c'est un premier pas dans cette direction.
Oui, mais alors il utilisait des langages simples, des langages qui permettaient à ses enfants de comprendre ce qu'il échangeait par rapport aux autres prédications.
Oui, je crois que...
Il s'adaptait.
C'est tout à fait vrai, on le trouve dans les textes de cette correspondance familière, de ces conférences. Il y a un bonheur d'expression, une simplicité de phrase qui, on le sait, ce n'est pas un grand théologien, il n'est pas allé plus loin que le grade de bachelier. Ce n'est pas un mystique, il n'a pas d'extase, de moments de prière plus intenses que d'autres. C'est plutôt un homme pratique, enfin dévoué au Seigneur.
C'est un homme de terrain.
Mais un homme de terrain, oui, un homme d'action. Et alors je crois que c'est ce qui se traduit dans sa forme de communication.
Thank you.
Il va lui arriver, grâce à Bérulle, je crois, de découvrir la maison des Gondi et tout va changer.
Alors là, c'est une autre étape, très proche également, puisqu'on est en 1613. Il est recommandé par Pierre de Bérulle à Philippe-Emmanuel de Gondi, qui est arrière-petit-fils de banquier florentin établi à Lyon et à Paris, devenu une ou deux générations avant dignitaire à la cour de France. Son père est maréchal de France, général des galères.
Ils sont venus à la traîne de Catherine de Médicis, les Gondi.
Auparavant, dès les premières décennies du XVIe siècle, ils trafiquent à la fois à Lyon et à Florence. Mais c'est avec, effectivement, la régente de Marie de Médicis qu'ils vont accéder, enfin que c'est André, va accéder à la plus haute dignité de l'État. Et puis alors, ce sont des gens qui sont richissimes, puisqu'ils possèdent des terres qui vont ensuite être vendues un jour à la cour de France. Et Marly, Versailles, Villepreux, Versailles qui sera vendu en 1632 au roi Louis XIII. Donc ils sont possessionnés là tout autour de Paris, et puis même aux confins de la Bourgogne et de l'Île-de-France à Joigny. Ils sont possessionnés en Picardie, en Champagne. Philippe-Emmanuel a épousé une dame de Silly, baronne de Montmirail, possessionnée donc en Picardie et en Champagne. C'est une des plus grosses fortunes certainement sur la place de Paris à ce moment-là. Et ce sont des gens qui sont extrêmement pieux, dévoués à l'Église, et très sincèrement, très efficacement. Et ce que Philippe-Emmanuel réclame de Vincent de Paul, c'est le préceptorat de ses enfants. Il a à ce moment-là 4 enfants, dont le plus jeune deviendra plus tard coadjuteur de l'archevêque, puis archevêque de Paris et cardinal. Mémorialiste, il est connu sous le nom de cardinal de Retz.
Qui aura un rôle dans la Fronde et qui s'opposera à Mazarin,
c'est là. Voilà, mais qui à ce moment-là,
oui, est un enfant.
Le temps où il est né en 1613, c'est-à-dire il est né l'année où Vincent de Paul est entré en charge dans la famille de Gondi. Donc, en fait, Vincent de Paul ne le guide que dans ses toutes premières années. Mais il reste bien sûr des liens affectifs, des liens très forts avec la famille des Gondi qui vont accompagner Vincent de Paul et ses œuvres pendant les décennies suivantes.
Alors la particularité aussi des Gondi pour Philippe Emmanuel, c'est qu'il était le général des galères du roi.
Oui.
Et ça va être aussi un événement très important dans la vie de
voilà,
Paul.
Alors ça, on peut, si vous voulez, avant d'arriver à l'action de Vincent de Paul dans le domaine des galères, il faut dire que dès 1616-1617, les Gondi ont souhaité envoyer Vincent de Paul prêcher, organiser des missions de récollection, de retraite, de confession générale dans des domaines terriens. Alors les plus célèbres sont en janvier 1617 à Folleville, on est dans la vallée de la Somme, et c'est une petite ville qui appartient effectivement aux Gondi, et Madame de Gondi a souhaité que Vincent de Paul prêche. Et là, au cours de ce séjour de très bref, de quelques jours, il est aux cheveux d'un moribond qui passe dans le village pour un homme aisé, un homme de bien. Or, à son lit de mort, ce personnage lui révèle des crimes, enfin des forfaits, dont il n'avait jamais osé se confesser. Et Vincent de Paul est épouvanté et le raconte, sans violer le secret de la confession, à Madame de Gondi, qui a l'idée d'organiser une sorte de confession générale de l'ensemble, d'inviter l'ensemble des habitants de la petite ville de Folleville à une confession générale. Alors ça, c'est un trait qu'on va retrouver dans le schéma des missions. Ce n'est pas d'ailleurs un trait qui est limité à Vincent de Paul, et c'est d'autres ordres, les jésuites, les oratoriens, d'autres ordres religieux, organisent de la même manière, à la même époque, des prédications itinérantes.
Avec sacrement des pénitences.
Par une sorte de confession générale au bout des 8 jours ou 15 jours qu'aura duré la mission. Alors là, on est dans cette dynamique propre au lendemain du Concile de Trente. Et puis, alors cette même année 1617, après la confession générale de Folleville, on le retrouve à l'été 1617 dans une paroisse qui n'appartient pas au Gondi en l'occurrence, mais que lui a recommandé Bérulle. C'est le Bourgade, enfin C'est beaucoup plus qu'un village. Il y a 2000 habitants. C'est une cité entourée de remparts qui s'appelle Châtillon-les-Dombes. C'est dans la province de la Bresse qui a été acquise par le roi de France en 1601 seulement. Et les Dombes, c'est-à-dire que c'est à côté du territoire des Dombes, qui est une principauté qui appartient au Bourbon-Montpensier. Mais justement, ce n'est pas dans les Dombes, c'est dans la Bresse. Et ce n'est pas une campagne perdue, comme on le dit. C'est une petite ville. Mais là, il va, entre le mois d'août et le mois de décembre 1617, il va faire l'expérience de l'organisation de confréries de laïcs. Qu'on avait vu s'esquisser, au fond, déjà à Clichy ou à Folleville, mais là qui va...
Là, il va faire un règlement, oui, c'est sa voilà. Première confrérie.
C'est-à-dire qu'il y avait, depuis le XIVe, XVe siècle, des confréries, c'est-à-dire des associations pieuses de laïcs, organisées selon une structure professionnelle, représentant, par exemple, les charpentiers ou les bouchers ou les orfèvres qui se retrouvent autour de Saint-Nicolas ou de Saint-Jacques. Bon.
Et ça, puis, c'était des confréries professionnelles
de dévotion. Et puis, des confréries donc, de piété dédiées à un saint patron ou à la Vierge Marie. Mais ce que va organiser Vincent de Paul, c'est une troisième forme d'action laïque. Ce sont des sociétés de charité. C'est-à-dire que c'est les confréries professionnelles ou de dévotion, avaient des œuvres de charité. Mais là, le but est l'œuvre de charité pour elle-même. Ce n'est pas au départ seulement la solidarité professionnelle, c'est vraiment l'œuvre de charité qui est le but premier.
Donc il faut qu'il organise tout ça.
Voilà, c'est lui qui donc invente d'une certaine façon, innove, puisque les confréries n'avaient pas cette structure, enfin ces buts, aussi bien défini. Alors, c'est dans ce sens qu'on va trouver l'année suivante notre cible de son attention charitable, ce sont les galériens. On l'avait à Folleville ou à Châtillon-les-Dombes envisagé la misère, mais il faut bien comprendre, on a tendance à imaginer la misère noire, la misère sordide, mais ce qu'il veut éradiquer, d'abord, ce qui l'inquiète, c'est la misère spirituelle. Bien sûr, elle va souvent avec la misère
matérielle.
Oui, parce que
la misère matérielle empêche les dévotions.
Mais c'est la misère spirituelle qui le choque. D'ailleurs, il dit à l'époque, et ça prouve d'ailleurs qu'il reste toujours en communication un peu avec les provinces méridionales, c'est que, ou du centre-ouest, c'est qu'il cite en exemple les catholiques de La Rochelle. La Rochelle est une ville protestante. Il y a une toute petite minorité de catholiques, 1000 ou 1500. Et, dit-il, aucun catholique ne connaît aussi bien le catéchisme que ceux de La Rochelle, dans la mesure où ils sont confrontés tous les jours à une controverse, à un exemple à donner.
C'est la particularité des minorités qui se défendent.
Les minorités. Et là, il insiste sur l'idée de la catéchèse et de la connaissance. Ce qui l'effraie dans cette confession des habitants de Folleville, c'est les ignorances spirituelles, profondes, évidentes des populations humbles. Et voilà ce qui le scandalise. Il va, après cette cible, si on peut dire, de la misère spirituelle, se tourner en 1718 vers les galériens. Il obtient la charge qui est créée pour lui, d'ailleurs, d'aumônier général des galères, bien sûr, dans la foulée, si on peut dire, de la charge de général des galères tenue par Philippe-Emmanuel de Gondi.
Et là, je crois que, ça y est, il commence à être connu par la cour, puisque le roi lui-même a signé cette charge.
Oui, qui est une nouveauté qui n'était pas exercée auparavant. Il y avait des aumôniers, mais un aumônier général. Alors, à vrai dire, là, c'est à Paris, en fait, qu'il exerce cette charge auprès des malheureux condamnés aux galères par le Parlement de Paris et qui attendent dans une prison, dans une forteresse qui est sur la rive droite du côté de la paroisse Saint-Roch, qui attendent le départ des chaînes vers Toulon ou Marseille, où il y a des arsenaux. Des galères. Et les départs, il y a deux départs dans l'année, au mois de mai, au mois de septembre. Alors, en attendant ce départ, les condamnés, qui sont environ 100 ou 200 par demi-année, attendent dans des conditions misérables le départ de la chaîne des forçats pour le midi. Alors, c'est eux que...
C'est d'eux dont il va s'occuper.
Vincent de Paul va chercher à améliorer la condition matérielle et bien sûr à prêcher, à écarter du désespoir.
Il va donc s'occuper de la chiourme, mais aussi des galériens par des missions qui vont être sur place.
Il y a des aumôniers sur les galères, effectivement. Sur les galères, on sait qu'il a dû voir monter sur des galères en 1623, curieusement, à Bordeaux. En effet, en 1622, c'est la deuxième guerre de religion ciblée du règne de la jeunesse de Louis XIII, ciblée sur La Rochelle. La marine royale fait un gros effort contre les Rochelais, qui ont une supériorité navale, qui contrôle la façade atlantique. Donc, c'est le duc de Guise qui est amiral de France, qui est chargé de réunir le maximum de vaisseaux. On en a loué en Hollande et on fait venir aussi 10 galères de Méditerranée qui passent
Gibraltar
et qui tiennent, sans doute y a-t-il pas trop de gros temps, qui participent à cette expédition contre La Rochelle. Là, il y a une bataille le 27 octobre 1622 qui est indécise parce que la tempête vient disperser les navires des deux parties. Mais les galères vont hiverner à Bordeaux, sur la Garonne, et donc c'est dans les premiers mois, enfin c'est plus tard, c'est en mai-juin 1623 que Vincent de Paul va monter sur les galères au repos sur la Garonne. On sait qu'une autre fois, il ira en 1643, 20 ans plus tard, à Marseille. Alors l'année 1623, c'est intéressant parce que c'est aussi la seule fois où il est revenu dans les Landes, dans son pays. Partant de Bordeaux, il a passé 8 jours auprès de sa famille, où il a pérégriné à une petite chapelle mariale qui est aujourd'hui révérée comme la patronne du diocèse d'Aire et de Dax. C'est Notre-Dame de Buglose, qui est à côté donc, de Dax, et tout près de Pouille, de son village natal. On est sûr qu'il y allait là, en 1623. Alors, un trait qu'il faut retenir, c'est qu'il a consacré très peu de temps à sa famille, à ses frères et sœurs, à ses cousins, et qu'il a toujours considéré qu'il se devait plus aux pauvres qu'à ses parents. Et ça peut paraître, bien sûr, une spiritualité très dure, sévère. Et il a toujours refusé d'aider, d'aumôner en faveur de parents dans le besoin, disant qu'il n'en avait pas les moyens parce que ses biens étaient aux pauvres et ils n'étaient pas à sa famille.
C'est ce qu'il a demandé aussi aux sœurs, aux filles de la charité.
Voilà.
Rompez
avec
votre famille.
On arrive là à une autre de ses fondations, qui est la plus importante certainement, qui va venir dans la fin des années 1620 et au courant des années 1630, c'est les fondations des dames et puis des filles de la charité. Alors, on peut dire effectivement, puisqu'on est sur ce chapitre de cette spiritualité très austère, très rigoureuse, que les règles qu'il édicte pour les filles de la charité frappent par le refus de tout attachement affectifs, même les plus légitimes en ce monde, dans la règle que les sœurs, qui les dictent pour elles à partir de 1634, et qui va perfectionner, et qu'elles doivent méditer chaque mois et réciter, il est prévu qu'elles doivent rejeter tout attachement à des parents, à une famille, mais même à un couvent, enfin à une maison pieuse,
à des malades, à des
enfants, hôpital, à un lieu, à un confesseur, même aux malades qu'elles secourent, qu'elles doivent refuser toute parole inutile, c'est-à-dire ne parler que par nécessité aux domestiques de l'hôpital et même aux malades qu'elles doivent encourager. Si elles observent quelque chose qui leur paraisse nécessaire de réformer, de modifier, elles ne doivent pas s'en ouvrir à leur sœur, à leur compagne, mais uniquement à une sœur servante supérieure qui en fera l'usage qu'elle voudra. Et il doit y avoir aucune familiarité, aucune communication, une solidarité profonde, un lien essentiel entre les sœurs, mais aucun attachement de ce monde. Mais je crois que dans la fondation des filles de la charité, on a ce qui est la plus belle invention dans cette dynamique de piété créative, innovante de Vincent de Paul. Alors, il avait d'abord encouragé un mouvement qui existait indépendamment de sa personnalité, c'est-à-dire des dames de charité, enfin des dames qui s'adonnaient de la plus haute société, qui s'adonnaient à la charité, et ces dames étaient Madame de Lamoignon, la Duchesse d'Aiguillon, nièce de Richelieu, Madame Séguier, l'épouse du chancelier Séguier, la mère de Nicolas Fouquet,
de grandes dames.
De la princesse de Conti, la princesse de Condé. Donc, vraiment de très grandes dames qui allaient visiter les pauvres chaque dimanche dans des paroisses, en accord avec le curé de la paroisse, c'est un détail important. Et elles allaient visiter les pauvres chez eux, leur apporter des vivres, leur faire la cuisine elles-mêmes, les encourager, les édifier. Mais ce détail est très intéressant. Ces dames de la plus haute société, des plus hauts magistrats de l'État, arrivent avec des chariots de vivres dans les maisons des pauvres et vont elles-mêmes les distribuer et leur faire la cuisine de leurs propres mains. C'est ça ce détail qui est particulièrement édifiant dans une société extrêmement hiérarchisée où le rang social a une telle prégnance. Et puis, ces femmes de charité, l'une d'entre elles, Louise de Marillac, qui est la nièce du
Michel de Marillac.
Michel de Marillac. Elle avait épousé fugitivement, son mari est mort très tôt, un monsieur Legras qui était un dignitaire de la cour, qui avait un office à la maison du roi. Et elle est veuve très jeune et elle se donne entièrement à ses œuvres de charité. Et Louise de Marillac, qu'on appelle aussi Mademoiselle Legras, donc, puisque c'est son nom de femme mariée, a rencontré une fille de la campagne qui est une sorte de sainte naïve qu'on l'en donne pour être la première fille de la charité. Alors, cette femme s'appelait Marguerite Nazo, née en 1594 dans le bourg de Suresnes. Elle est vachère et toute jeune, elle veut apprendre à lire. Et elle s'achète un abécédaire et elle va demander au prêtre de la paroisse de lui expliquer les quatre premières lettres. Et puis, quand elle a retenu les quatre premières lettres, elle va demander les quatre lettres suivantes. Et puis, en gardant les vaches, elle se les répète. Et chaque fois qu'elle voit sur la route un personnage dont on peut penser qu'il sait lire et écrire, elle va lui demander comment on doit prononcer tel mot. Et elle apprend toute seule à lire et à écrire. Et elle va ensuite essayer d'alphabétiser les autres filles des villages des environs. Alors, c'est cette fille, Marguerite Nazo, que rencontre Louise de Marillac. C'est la première fille de la charité. Elle meurt en 1633 en secourant les pestiférés. Il y a une épidémie de peste qui ne frappe pas nécessairement Paris, mais qui ravage
les alentours,
deux tiers de la France entre 1628 et 1632. Marguerite Nazo meurt en 1633 de la peste. Et je crois là qu'on a un détail qui a une très forte signification. C'est cette idée que le développement social, la lutte contre la misère, passe par d'abord l'alphabétisation des filles, des fillettes ou des femmes. Je crois qu'en toute époque, c'est l'éducation des femmes, leur formation, parce que sont elles qui vont dominer le cercle familial, qui est un élément, on pourrait dire, anthropologique, essentiel. Et ça, c'est quelque chose qui, là aussi, était une intuition de Vincent de Paul, enfin, au moins qu'il sait reconnaître. Alors, en 1634, l'organisation des filles de la charité voit le jour avec ses statuts rigoureux. Elle sera reconnue par Rome, validée quelques années plus tard. Alors, les filles de la charité sont, il y a une, on peut le dire là, peut-être une assez jolie phrase où Vincent de Paul explique quelle est leur mission, leur...
Oui, d'autant plus qu'on verra le style de Vincent de Paul qui est toujours particulier et qui touche.
Il veut qu'elle se différencie des ordres religieux féminins cloîtrés. Il veut que ses filles, les filles de la charité, soient formées dans un séminaire. Un séminaire et non pas un noviciat. C'est-à-dire que c'est une assimilation au séminaire qui a une dynamique spécifique pour les hommes. C'est donc une charge qui est dans le siècle. Elles ont...
Il était très féministe, décidément.
Une charge féminine particulière. Et alors, il y a cette très belle phrase, je la reprends. « Elles n'ont pour monastère que les maisons des malades. Pour cellule, quelques pauvres chambres bien souvent de louage. Pour chapelle, l'église paroissiale. Pour cloître, les rues de la ville. Pour clôture, l'obéissance. Pour grille, la crainte de Dieu. Et pour voile, la sainte modestie. Alors voilà, c'est très beau, ces images qu'il choisit pour cloître les rues de la ville. Elles sont dans le siècle, elles sont au chevet des malades et elles doivent tout abandonner pour ce service.
Je voudrais maintenant qu'on parle d'autres fondations, et je pense en particulier aux enfants trouvés.
Voilà, alors là encore, bon, on peut reprendre peut-être une autre phrase de Vincent de Paul où il évoque les différentes vocations des ordres. Il dit « les chartreux ont choisi la solitude, les capucins la pauvreté, les carmélites la mortification, les filles de l'Hôtel Dieu le secours des malades ». Et, dit-il, vous, mes filles, vous vous êtes données à Dieu pour assister les pauvres malades et pour aller les trouver dans leur maison. Et il a cette image qui est assez extraordinaire. Jésus, apprenant l'apostolat des filles de la charité, a dit « Mais ces filles me plaisent, elles se sont bien acquittées de cet emploi. Je veux leur en donner un second et c'est celui des pauvres enfants abandonnés. » Et il imagine ensuite, puisque c'est supposé être Jésus-Christ qui parle, après les enfants abandonnés, eh bien, il y a encore plus misérable, c'est l'assistance des pauvres forçats. Et puis, un autre emploi qu'il a voulu donner, c'est celui d'assister les pauvres vieillards, et enfin, les pauvres gens qui ont perdu l'esprit. Alors voilà, il y a une sorte de gradation, chaque fois une cible des scandales de la société de son temps qui lui paraissent les plus abominables et qu'il a exposés et qui sont chaque fois la mission des filles de la charité. Et il conclut, mais quel bonheur, quelle grande faveur, secourir les
plus malades. Et grande ferveur.
Quelle grande ferveur, oui. Alors, les enfants abandonnés, je crois qu'on peut peut-être s'attarder sur ce dernier point. C'est en 1638 que les filles de la charité, sous la direction de Vincent de Paul, vont s'attacher spécifiquement à l'œuvre des enfants abandonnés. Alors, c'est un fléau, bien sûr, pluriséculaire. Dans le Paris du XIVe, XVe siècle, il y a déjà des maisons de secours. Au XVIe siècle, le Parlement de Paris se soucie du sort et des moyens de secourir les enfants exposés, les enfants abandonnés. La jurisprudence, c'est qu'un enfant abandonné, c'est comme une épave, comme une brebis égarée, comme une pièce abandonnée, et que ce qui est sans appropriation revient, selon le droit régalien, au seigneur, au justicier du territoire. Donc c'est aux seigneurs qui ont des droits de justice à l'intérieur de Paris, de la vicomté de Paris et d'Île-de-France, de payer une certaine somme pour secourir les enfants abandonnés. C'est la jurisprudence du Parlement de Paris. Et les jours de grandes fêtes, des dames des nourrices, des dames dévouées, exposent dans l'entrée de Notre-Dame, sur un bois de lit, des nourrissons, des petits-enfants abandonnés qu'on montre pour exciter la compassion des fidèles qui viennent aux cérémonies à Notre-Dame. C'est un moyen de secourir. Alors, il y a plusieurs œuvres. Les plus célèbres, c'est les Enfants Rouges, qui se trouvent dans le quartier du Temple. Ça existe encore. Hein. Aujourd'hui, il y a un marché des Enfants Rouges. Et puis, les Enfants Bleus, qui sont dans le quartier Saint-Denis. Chaque fois, ce sont des institutions de secours à des enfants dans le besoin. Enfin, ils peuvent être orphelins ou enfants de familles misérables qui ne peuvent pas les entretenir, à qui on donne un apprentissage. Et pour les filles, on essaie de leur donner une dot pour les marier. mais ça présente une goutte d'eau dans un océan de misère. Et alors, les enfants exposés, abandonnés, qu'on met sur les marches d'un couvent, sur les parvis d'une église, on les recueille à ce qu'on appelait la couche Saint-Landry, ou le port Saint-Landry, qui est à l'emplacement aujourd'hui du marché aux fleurs. Enfin, de ce qui est aujourd'hui le marché aux fleurs. C'était des maisons qui appartenaient aux chanoines de Notre-Dame. Et alors, c'est là que Vincent de Paul et les filles de la Charité visitent la couche Saint-Landry. La mortalité y est abominable. On a des proportions ahurissantes. C'est-à-dire, c'est presque la totalité. C'est-à-dire, c'est étonnant que des enfants survivent. Ceux qui survivent, c'est plutôt 10 ou 15% seulement. Et peut-être pas toujours, moins que cela. Et l'idée, c'est donc de pouvoir leur assurer un entretien immédiat de soins, de nourriture aussi, au lait de vache ou de chèvre. Avant de les mettre en nourrice, on les transportait dans des chariots chez des nourrices des paroisses suburbaines des environs de Paris. Si on peut les chauffer, les ranimer immédiatement, il y a les chances de survie sont meilleures. C'est ça l'idée de trouver donc des locaux qui vont être, alors j'ai oublié de le dire, on aurait dû localiser avec plus de précision, c'est à partir des années 1630, Vincent de Paul a établi lieu de formation et de secours dans une ancienne léproserie qui était hors les murs, à Saint-Lazare, dans le domaine Saint-Lazare.
Prieuré de Saint-Lazare, oui.
Aujourd'hui, c'est l'emplacement du boulevard de Magenta, de la rue du Faubourg Saint-Denis et du boulevard de Magenta, vers la gare du Nord, si vous voulez. Et c'est là qu'on va recueillir un nombre d'enfants trouvés qu'on peut accueillir quand ils reviennent après le sevrage, après le passage 2 ou 3 ans. On les allaitait extrêmement longtemps à l'époque, les enfants. Et après, donc, s'ils ont survécu, on va pouvoir les mettre en apprentissage, en éducation, pour les garçons à partir de 12 ans, pour les filles à partir de 15 ans. Alors là, c'est effectivement un élément, si vous voulez, qui est très important dans l'état social de la capitale. Alors, il ne faut pas croire que cette œuvre sera décisive. Et en fait, jusqu'à la fin du XVIIe siècle, on est en dessous de 1000 enfants abandonnés par an sur Paris. Leur entretien coûtant environ 40 000 livres. Or, au XVIIIe siècle, le tournant, c'est les années 1694-15, où il y a une grande période de crise terrible. Et au XVIIIe siècle, on dépasse largement 1000, on arrive à 2000 ou plus. Ça tient à l'explosion démographique de Paris, ça tient à ce que Paris devient une ville refuge, mouroir, où les gens des provinces viennent abandonner les enfants, et ils viennent de très loin pour abandonner les enfants. Et ça tient aussi même du prestige, si on peut dire, de l'importance des institutions de secours de la capitale qui font que ça draine l'abandon d'enfants.
Oui, je vois, parce que effectivement, la renommée de l'assistance de Vincent de Paul a été dans tout le territoire français. Et pour conclure, on verra à quel point Vincent a bâti solide, parce que dans son sillage, toutes ses œuvres continuent.
Toutes ses œuvres continuent avec des fluctuations qui tiennent bien sûr aux conjonctures différentes. Mais c'est vrai que l'œuvre des enfants trouvés, l'œuvre des dames de charité, de secours aux malades, l'œuvre aussi de formation des prêtres, parce que là, on a sauté peut-être, on ne peut pas tout dire en si peu de temps. J'aurais dû développer aussi l'attention de Vincent de Paul aux ordinants, c'est ça, aux retraites de prêtres. C'était un mouvement qui n'était pas isolé, puisque au même moment, il y a Bourdoise à Saint-Nicolas-du-Chardonnay, Jean-Jacques Ollier à Saint-Sulpice, presque exactement les mêmes années, qui eux aussi créent des séminaires qui vont recueillir pendant assez longtemps des jeunes clercs qui peuvent avoir des bourses et qui peuvent étudier. Alors que jusque-là, au XVIe siècle et avant le Concile de Trente, on n'avait guère que, pour former des prêtres, que 8 ou 10 jours de retraite avant l'ordination, ce qu'on appelait des retraites d'ordinants, de gens qui vont être ordonnés prêtres. Alors là, désormais, c'est selon les directives de Trente. Le Concile de Trente s'est arrêté en 1563. Alors, on est dans les années 1630. On a tout de même un certain laps de temps. C'est pas immédiat. Mais enfin, voilà, il y a tout de même beaucoup d'œuvres qui vont dans le même sens à Paris. Alors, les Lazaristes, le séminaire des Lazaristes dans la ferme Saint-Lazare est peut-être celui qui recueille le plus de vocations. Alors, voilà, on a fait peut-être le tour. Ce qu'on constate, et vous l'avez dit, c'est à quel point ces œuvres étaient ciblée, elle semblait correspondre à des préoccupations immédiates du XVIIe siècle. Et puis, on s'aperçoit que dans d'autres siècles et d'autres lieux, elles ont la même pertinence que Vincent de Paul, au fond, a une sorte de compréhension qu'on dira anthropologique, des points d'action, enfin, selon une dynamique chrétienne, de points spécifiques d'intervention.
Mais c'était aussi un homme très moderne, et puis qui avait le sens de l'adaptation, puisque je crois que tous ces règlements étaient sans cesse remaniés, parce qu'il fallait qu'ils s'adaptent selon les besoins du moment.
Voilà.
Et ça, c'était aussi une grande qualité de ce personnage.
Et on l'a dit aussi, chemin faisant, un homme de communication, pour employer un mot à la mode, puisqu'il faisait, à partir des années 1640, tous les mardis, des conférences qui étaient ouvertes à un plus vaste public. Il s'adressait d'abord à des dames de charité, aux frères lazaristes, mais aussi qui étaient ouvertes à un public attentif, dévot, qui n'étaient pas des prédications, mais plus des exercices de réflexion sociale, de morale chrétienne en pratique. Et puis on a aussi alors les recueils de ses instructions aux missionnaires, puisque là, il a envoyé des missions à Madagascar, au Canada, et là, il y a un rayonnement. On touche là, c'est l'idée d'un rayonnement mondial.
Merci beaucoup Yves-Marie Bercé. Vous nous avez présenté un personnage qui est devenu un homme important au sein de l'État, puisqu'il a fait partie du Conseil de conscience à l'époque d'Anne d'Autriche. Il a donc eu une renommée dans tous les domaines.
Ah, c'est vrai qu'il n'a pas été méconnu en son temps. Il est reconnu par les plus hautes instances de la société et de l'État, ce qui lui permet effectivement, entre 1643, après la mort de Louis XIII, au chevet duquel il se tenait, jusqu'en 1649-50, où là, son opposition à Mazarin va le disqualifier, si on peut dire, pour les emplois politiques. Il est le moteur de ce qu'on appelle le Conseil de conscience, c'est-à-dire c'est une instance de réflexion, de décision politique autour de la reine régente, Anne d'Autriche, instance qui intervient pour les propositions aux évêchés, aux grandes abbayes, qui ensuite sont ratifiés par le souverain pontife selon les termes du concordat depuis François Ier.
C'est donc une forme de ministre du culte.
Voilà, c'est ça, puisque c'est effectivement le roi de France qui choisit des candidats que le Saint-Père investira.
Au revoir Yves-Marie Bercé, merci d'être venu jusqu'à nous.
Bien, merci.